Bonsoir Amélie Nothomb.
Bonsoir, quelle joie de vous revoir. Et vous savez que c'est extraordinaire parce que depuis le Covid, dans mes déplacements, on ne fait plus d'entretien. Eh bien ici, à Bordeaux, on fait quand même un entretien et j'y suis extrêmement sensible.
Ouais, c'est la librairie Mola.
Vive même les auteurs.
Alors cette fois, vous venez nous voir avec donc, les aérostats, toujours chez Albin Michel. C'est l'histoire d'une jeune philologue qui va aider un jeune homme dyslexique à se mettre à la lecture. Ce personnage vous ressemble énormément. Qu'est-ce qui s'est passé, Amélie Nothomb? Pourquoi vous avez eu envie de retourner dans cet amphithéâtre où vous n'étiez pas très populaire?
À travers une correspondance avec une jeune lectrice qui me parlait de son expérience de répétitrice de français pour des adolescents, je me suis rappelé ma propre expérience de répétitrice de français pour des adolescents quand j'avais 19 ans. Et quand j'avais 19 ans, j'étais épouvantablement sérieuse, épouvantablement mal dans ma peau. J'étais le prototype de l'étudiante bosseuse, vous savez, tout le temps dans ses livres. Et pour me faire de l'argent de poche, je donnais des cours de littérature, de français, à des adolescents qui somme toute, n'avaient jamais que 3 ans de moins que moi. Et c'était un petit peu les seuls rapports humains que j'avais. Et je pense que ça devait être très dur d'être mon élève, parce que j'étais une peau de vache.
Ah bon ?
J'étais sévère, je donnais des ordres. Mais en fait, j'ai le souvenir que certains adolescents, du moins, adoraient ça. Donc, après coup, je me suis dit, en fait, sans le savoir, on a dû vivre de grandes histoires d'amour et je n'en savais rien.
Alors, vous aviez envie, là, de continuer cette transmission, plutôt de la reprendre de cette façon-là, en disant, mais en fait, on peut aider un dyslexique en lui disant, voilà, tu vas finir ce bouquin de 1000 pages d'ici demain.
Comprenons-nous bien. Je ne pense pas du tout que Pi, le jeune homme du livre, soit dyslexique. Je pense que Pi fait partie de ces anormalement nombreux jeunes gens d'aujourd'hui que l'on qualifie de dyslexiques alors qu'ils ne le sont pas. Ce serait quand même extraordinaire que, à partir des années 2000, la dyslexie se soit tout simplement multipliée par 25. Il n'y a pas eu de mutation génétique qui ait tellement multiplié le nombre de dyslexiques. Je me suis rendu compte pour avoir correspondu, parce que j'ai continué à correspondre avec des adolescents, simplement je ne les ai plus maintenant, comme on dit, en présentiel, je les ai de l'autre côté du papier, que très souvent, des jeunes gens ou des jeunes filles qualifiées de dyslexiques étaient tout simplement des gens à qui on n'avait jamais fait lire un livre en entier. Ce qui est une aberration. Et évidemment qu'ils ne savent pas lire si on les fait pas lire. C'est aussi bête que ça. Très souvent, il suffit de leur dire, ben, vous ne savez pas lire, eh bien, lisez. Eh bien, il suffit de le dire et ils lisent un livre et ça change tout. On vit à une époque où ce n'est pas que je ne pense absolument pas que les adolescents ne lisent plus. Je ne pense pas qu'ils ne soient plus intéressés par la lecture. Je pense que les adultes ont changé d'attitude vis-à-vis des adolescents. Ils se disent, ouh là là, mais attention, ah, les adolescents d'aujourd'hui, mais c'est pas pareil. Mais ils vont certainement pas aimer lire. Mais si on leur fait lire un livre qu'ils n'aiment pas, mais c'est une catastrophe. Les adolescents d'aujourd'hui sont tellement différents. Or, c'est pas vrai. Si on propose à un adolescent d'aujourd'hui de lire des livres, il faut bien sûr proposer des œuvres géniales. Les adolescents adorent le génie. Il faut pas leur dire de lire Martine à la ferme. Évidemment que ça va pas leur plaire. Mais si on leur propose des œuvres de génie, il va se passer des trucs étonnants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément aimer, mais comprenons-nous bien, c'est pas grave de ne pas aimer un livre. Ne pas aimer un livre, ça peut être très intéressant. Pi n'aime pas certains livres que Ange lui fait lire, mais ses réactions sont très intéressantes. Voilà, former le goût de quelqu'un passe parfois par une chose qui peut avoir l'air d'être de la contrainte. Moi, je n'y vois personnellement aucune contrainte, j'y vois l'effort, voilà. Il faut favoriser le goût de l'effort chez les adolescents, le goût de la curiosité. Et si cette curiosité est encouragée et favorisée, eh bien, croyez-moi que les adolescents d'aujourd'hui aiment lire tout autant que nous aimions lire.
Pourquoi Pi obéit à Ange? Pourquoi il lit ce livre? Tout d'un coup, elle lui dit, alors voilà, vous allez lire Stendhal d'ici demain matin. Et il le fait. Pourquoi il vous obéit?
Parce que les adolescents ont de l'orgueil et que quand on pique leur orgueil, ça marche. Je pense que passer par la complaisance ne marche jamais. dire « Oh, mais ce serait tellement bien si tu lisais un livre, ce serait tellement gentil. » Non, ça, ça marche pas. Si on dit « Écoute, voilà, je m'en fiche de ce que tu penses, mais lis-le parce que, crois-moi, il va se passer quelque chose. »
Donc vous regrettez un peu d'autoritarisme quand même sur l'accompagnement ?
C'est même pas une question d'autoritarisme, c'est une question de défi. C'est une question d'orgueil. Je pense qu'aujourd'hui, les enseignants ne tablent plus assez sur l'orgueil des adolescents. Il faut leur dire, mais vous croyez que vous allez être capable de lire l'Iliade et l'Odyssée ? Vous savez que si vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, ça va être énorme. Si on dit ça, il se passe quelque chose. Voilà. Et je suis étonnée que là encore, ce n'est pas une généralité. Il existe, Dieu merci, des enseignants qui réussissent très bien à faire lire leurs élèves et qui ont de hautes ambitions pour leurs élèves. Et voilà, tout se passe extraordinairement bien quand on tire les gens vers le haut, alors que quand on essaye de faire preuve de complaisance, d'indulgence en disant... voilà, d'angélisme, finalement. L'angélisme, ça ne marche pas.
Ça, c'est un constat que vous faites comment ? Avec les lecteurs que vous rencontrez, qui vous écrivent ?
Je correspond avec énormément d'adolescents. Et quand ça ne passe pas par le biais de l'école, quand c'est l'adolescent qui m'écrit directement, adolescent ou adolescente, 15, 16, 17 ans, il se passe toujours des choses colossales. Et là encore, jamais je ne flatte les goûts faciles. Quand un adolescent me demande quoi lire, je fais exactement comme Ange. Je dis « Ah, vous voulez lire quelque chose ? Lisez l'Iliade et l'Odyssée. »
Boum.
Et croyez-moi, les résultats sont exceptionnels.
Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour que dans ce livre, tout d'un coup, on a l'impression que vous avez rangé votre bibliothèque, hein, quand même, parce que...
Si vous saviez à quel point je ne l'ai pas rangé.
Parce que dans ce livre, vous évoquez quand même des livres qui semble être tout à fait majeur pour vous, encore que, à bien y regarder, on se doute que c'est vraiment très peu par rapport
c'est
au...
C'est très peu par rapport à l'immensité de l'édifice. Bon, de ma part, c'est aussi un acte de gratitude. J'ai eu une adolescence extrêmement perturbée. Et je sais que si je suis là devant vous, dans un état encore à moitié présentable, c'est vraiment grâce à la lecture. La lecture m'a littéralement sauvé la vie. Ce n'est pas une formule de style, ce n'est pas pour faire joli. Quand j'avais 15 ans, franchement, la question que je me posais, ce n'était pas « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» Quand j'avais 15 ans, la seule question, c'était « est-ce que je vais continuer à vivre ?» J'étais littéralement entre la vie et la mort. Je crois vraiment que ce qui m'a sauvé, c'est l'amour des livres. Quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire quand j'allais le plus mal, j'avais un orgueil monumental et j'avais conscience que mon cerveau était en train de se ratatiner, mais dans des proportions juste alarmantes. Il y a eu un moment où j'ai pensé, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas retraduire l'Iliade parce que au moins ça va réveiller ton cerveau. Et je l'ai fait. Bon, je n'ai retraduit qu'un tiers de l'Iliade. Mais je me souviens tellement bien de ce moment où j'étais seule avec l'Iliade et où je retraduisais le texte grec toute seule. Je me souviens qu'il... Je pensais, oh là, il est en train de se passer quelque chose d'énorme. Je suis seule avec le texte, je me bats avec le texte, je reviens à la vie. C'est colossal ce qui se passe.
Donc ce livre, c'est vraiment plus que jamais encore un livre de transmission, Amélie Nothomb.
Oui, parce que je pars toujours du principe que si moi j'ai pu être sauvée comme ça, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. On souligne souvent mes bizarreries. Moi, je suis beaucoup plus frappée par ce que j'ai de commun avec tout le monde. Je pense que je suis quelqu'un, finalement, de très normal et que si quelque chose m'arrive, cette chose peut vraiment arriver à tout le monde.
Alors, pourtant, ces personnages, tous, il n'y en a pas un qui n'est pas fragile.
Comme nous tous, n'est-ce pas ? Comme nous tous, mais c'est de la somme de nos fragilités que quelque chose peut apparaître. C'est ça qui est formidable quand on rencontre quelqu'un, c'est de découvrir ses fragilités parce que ce ne sont jamais les mêmes que les nôtres. Et j'ai souvent remarqué que confronter sa propre fragilité, je suis d'une fragilité abyssale, avec la fragilité des autres, me faisait beaucoup de bien. Parce que on s'apporte quelque chose, on n'est pas défaillant là où l'autre est défaillant, et l'autre, par contre, peut nous nourrir à l'endroit où nous sommes défaillants.
Alors, c'est un livre sur la transmission et aussi sur la réparation de... Voilà,
réparation très paradoxale, hein, parce que c'est quand même un livre d'une immoralité complète. Nous ne révélerons pas la fin pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, on ne peut quand même pas recommander la fin de ce livre. On ne peut pas dire, voilà ce qu'il faut faire. Non, on ne peut pas dire ça.
Non, on ne peut pas.
Encore que personnellement, je donne totalement raison à l'adolescent, parce que franchement, il y a des cas où il faut, quoi. Mais au moins, peut-on prendre la fin de ce livre sous l'angle symbolique. Même quand on a les meilleurs parents du monde, il y a un moment où symboliquement, il faut tuer ses parents.
D'où le titre, Les aérostats, prendre de la hauteur.
Prendre de la hauteur, et aussi ces livres s'appellent comme ça pour 10 000 raisons.
Mais il y a ce côté-là quand même.
Oui, mais bien sûr. Alors, des gens qui se sauvent par le haut, je pense que pour moi, les véritables aérostats du livre, c'est Pi et Ange qui se sauvent en prenant de la hauteur. On se sauve toujours par le haut, hein, jamais par le bas, ça c'est sûr et certain. Mais aussi parce que de toutes les inventions humaines, il n'y en a aucune qui me fascine autant que les aérostats. C'est dommage parce que ça ne sert pas à grand-chose, les aérostats. Et c'est ça qui tombe complètement en désuétude. Mais je trouve c'est rare qu'on ait inventé quelque chose d'aussi beau et quelque chose qui donne autant de raisons d'espérer que les aérostats.
C'est une symbolique forte quand même. Hein, c'est
symbolique très forte. Je parle évidemment des zeppelins, des ballons, des dirigeables. C'est très beau. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est très dangereux.
Ça pourrait vous résumer.
Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup.
Alors, dans ce livre aussi, il y a des éléments qui sont très forts. Par exemple, il y a un moment donné, on va essayer de ne rien révéler sur ce livre. Il y a un moment donné quand même où il est question d'être observé à son insu. Moi, ça m'a évoqué votre distance avec les réseaux sociaux. Vous détestez tellement ça qu'il était là, c'était important de le mettre dans un livre.
C'est intéressant. Je ne l'aurais pas imaginé comme ça, mais je pense que vous avez raison. Cette situation, la situation horrible, obscène, que vit le jeune Pi sans le savoir avec son père, à savoir que son père observe ses leçons particulières derrière un miroir sans teint, c'est une abomination. Moi, je comprends que quand le jeune Pi découvre cette situation, je comprends qu'il soit amené à commettre le pire. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se croire dans une situation d'intimité avec quelqu'un et de découvrir qu'on est observé ? Bon, je suis très loin d'être une spécialiste des réseaux sociaux. Moi, j'ai réglé la question d'une manière pure et simple. Je ne suis sur aucun réseau social. Inutile de me chercher sur Internet. Si vous rencontrez une Amélie Nothomb sur les réseaux sociaux, sachez que c'est une fausse, et il en existe plusieurs fausses. Mais je ne peux pas vous dire à quel point ce qui se passe sur les réseaux sociaux me glace. J'ai l'impression que la condition d'une belle relation humaine n'apparaît pas sur Internet. Pour moi, la première condition pour qu'une relation humaine soit belle, c'est le secret. Et pour ce que j'en connais, Internet n'est pas le lieu du secret. Internet est le lieu de la monstration. Je suis très écœurée quand j'apprends que j'ai envoyé une lettre à quelqu'un et que ce quelqu'un a exposé ma lettre au vu de tout le monde sur Internet. Bon, je veux bien croire que certaines personnes ont fait ça avec des motifs charmants, mais comprenez que ça me choque. Qu'est-ce qui fait le prix d'une lettre ? Le prix d'une lettre, c'est l'enveloppe. C'est que c'est un texte qu'on fait pour une seule personne. C'est très important pour moi qu'une lettre soit un texte qui s'adresse à une seule personne. Rassurez-vous, j'ai de nombreux correspondants dans la salle. Je ne les ai pas encore tous repérés, mais petit à petit, je vois des visages qui se détachent. Et je me dis, je sais, ce sont des gens avec qui j'écris. Et rassurez-vous, quand je mourrai, tout mon courrier sera détruit. Vous n'aurez pas la mauvaise surprise de voir un jour « Correspondance de Amélie Nothomb » publiée dans... Je comprends que ça fascine les gens. Hein. Il m'est arrivé, moi aussi, honte sur moi, il m'est arrivé de lire des correspondances qui avaient été publiées parce que il faut reconnaître que c'est un genre extrêmement fascinant et que ce que deux êtres humains échangent par correspondance est forcément très beau, très précieux. Mais de mon côté, tout est sûr. Ma correspondance ne sera jamais publiée.
Et vous aviez vraiment envie, à un moment donné, d'intervenir et de, Alors, vous dénoncez finalement cette observation d'une façon romancée, parce que vous êtes Amélie Nothomb et que voilà, vous prenez plus d'intérêt à utiliser les mots et les histoires pour raconter votre point de vue. Mais il y a de ça quand même dans ce personnage qui observe son... Il y a cette intrusion.
L'intrusion, la monstration de ce qui n'est pas censé être montré est pour moi un crime inexpiable. J'ai toujours pensé que si je surprenais quelqu'un en train de lire mon courrier en cachette, j'ai toujours pensé que je serais capable de commettre un meurtre. Heureusement, cette situation n'est jamais apparue. Mais je crois vraiment que je tuerais la personne que je surprendrais en train de lire mon courrier.
Alors ça va avec une autre idée qui est très présente dans les aérostats et qui est finalement quelque chose de l'ordre de Virginia Woolf, c'est-à-dire un espace à soi.
Bien sûr.
C'est-à-dire un espace pour créer.
Alors, ça, c'est encore mieux. Si en plus, l'espace qui est à soi nous sert à créer, c'est encore mieux. Mais bon, nous ne sommes peut-être pas tous des créateurs. Et même si on n'est pas créateur, évidemment que nous avons tous, non seulement le besoin, mais le droit imprescriptible à notre espace, à nous. Et que si quelqu'un, à quelque titre que ce soit, quelle que soit sa motivation, transgresse cet espace, eh bien, je n'ai aucune indulgence.
Alors, cette question, elle est très intéressante en ce moment, après une période de confinement, où tout le monde a été appelé à rester dans son espace, à lui. Et vous sortez ce livre aujourd'hui, qui invite justement à faire bien attention à son espace.
Croyez-moi, quand j'ai choisi ce livre, il n'était pas encore question de confinement. Il y avait 2-3 rumeurs sur le coronavirus. J'étais tout comme tout le monde. Je n'avais absolument pas mesuré le phénomène. Donc, je ne l'ai pas fait exprès. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, ça résonne étrangement avec tout ce qui se passe.
Qui est aussi une réponse, finalement, à une époque où, de toute façon, même sans confinement... on voit bien, la société appelle à rester chez soi, à être un peu isolé devant sa télé, qui n'est pas du tout votre cas, puisque...
C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose dans cette époque qui me choque très profondément. J'ai l'impression qu'on encourage ce qui est privé, mais ce qu'il y a de moins bien dans le privé, à savoir la télévision, le petit confort chez soi... Et qu'à côté de ça, on encourage la monstration, mais de la pire façon. Révélez vos secrets, mettez tout sur la place publique, etc. Et j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. À savoir, non, ne cultivez pas votre petit chez-soi, votre petit confort, votre petite télévision. Au contraire, sortez de chez vous, allez voir les autres, ne signifie en aucun cas de révéler ce qui est votre noyau dur. Ça ne signifie pas qu'on va voir les autres en mentant ou en ne donnant pas tout ce qu'on peut donner. Il faut être généreux, bien évidemment, et c'est là que quelque chose apparaît. C'est quand on est généreux. Mais il y a une limite à la générosité. La limite, c'est le moment où vous savez que, voilà, au-delà de cette limite, c'est plus possible. C'est une chose que je vis beaucoup avec mes correspondants. Ils le savent. Dans mes correspondances, il n'y a pas de limite à ce que je peux donner dans mes correspondances. Mais si on va trop loin, alors tout à coup, là, je me ferme. J'y peux rien. C'est bon. Nous avons tous une limite. Et c'est ne pas aimer quelqu'un que de vouloir aller de l'autre côté de la limite. C'est aussi pour ça que j'ai écrit Barbe Bleue. Barbe Bleue est le conte qui me parle le plus. Moi, j'ai une très belle vision du héros Barbe Bleue. Je pense que Barbe Bleue est un homme qui aime réellement ses épouses, mais qui, à un moment, explique « Bon, je suis désolée, je vous aime, mais j'ai une limite. C'est la chambre rouge ou bleue. Enfin, vous pouvez tout savoir, mais la chambre rouge, c'est à moi. Donc, vous n'y allez pas. Mais par contre, vous pouvez aller partout dans mon palais. Mon palais est à vous, mais vous me laissez juste la chambre rouge. » Et toutes les épouses vont toutes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont toutes dans la chambre rouge. C'est insupportable. Il a quand même été clair, elles peuvent aller partout, mais pas dans la chambre rouge. Eh bien, je pense que nous avons tous le droit à notre chambre rouge. Bon, de là à dire qu'il faut nécessairement couper en morceaux l'épouse qui est allée dans la chambre. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré,
À peine.
Bon, moi, je ne coupe pas en morceaux les gens qui vont dans mon espace réservé. Je me referme comme une huître. C'est ma réaction.
Mais finalement, on le voit bien, ce livre, à travers donc, voilà, plusieurs portes d'entrée.
Oui.
Vous évoquez la limite.
Je trouve que c'est un des principaux problèmes qui apparaissent avec les êtres humains. Je connais très bien la solitude. J'ai très longtemps été pathologiquement seule et j'en ai souffert abominablement. En gros, de mes 10 à mes 20 ans, j'ai été seule et cette solitude n'était pas désirée et j'en ai énormément souffert. Puis bizarrement, les choses ont plutôt bien tourné pour moi, raison pour laquelle vous m'invitez aujourd'hui chez Mola. Et j'ai un peu l'impression de me retrouver dans l'extrême inverse, ce qui est génial. Vous savez, quand on a crevé de faim pendant 10 ans de sa vie, quand on vous apporte des gâteaux à la crème tous les jours, vous êtes très content. Mais pour autant, un problème subsiste. C'est voilà, le problème de la limite. Auparavant, j'étais dans la disette. Maintenant, je suis dans l'excès. Je préfère l'excès à la disette, mais il existe une limite. Bon, mon cas est paroxystique parce que je vis une situation très particulière, mais nous vivons tous cette situation. Je veux croire qu'il nous arrive à tous dans notre vie de connaître l'amour et l'amitié. Quand ça se produit, mais c'est extraordinaire. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons vivre. L'illusion, quand on est très jeune, quand on vit son premier amour et que ça se passe bien, c'est qu'on se dit, voilà, ça va être la fusion totale. Si ça dure suffisamment longtemps, il y a toujours un moment où on dit, non, c'est pas possible. Il y a, même dans l'amour le plus absolu, il y a toujours un moment où on a envie de dire, non, stop. Là, je t'aime autant que l'on peut aimer, mais il y a quand même un moment où ça s'arrête. Il y a un endroit où tu peux pas aller. Il y a quelque chose qui m'appartient et qui ne t'appartient pas. Il y a mon secret. Il y a mon domaine réservé. Il y a une frontière entre tous les êtres. Et c'est pas tragique, c'est comme ça. Je pense que si nous avons de la peau, ça a beaucoup de sens. La peau, c'est une protection. Et à un moment, on ne peut pas dépasser cette limite.
Ce qui est très intéressant avec la aérostate, Amélie Nothomb, c'est qu'on a quand même la sensation que ce sujet de la limite, du territoire, de la quête identitaire, est un peu la trame de l'ensemble de votre œuvre.
C'est vrai.
Et qu'aujourd'hui, vous en faites un peu une quintessence en donnant la clé, c'est-à-dire la lecture.
La lecture. Alors, mais vous êtes géniale. Ce n'est pas la première fois que je m'en aperçois, mais vous êtes absolument géniale. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on pourrait très bien voir comme fil rouge entre tous mes livres une espèce de cartographie des rapports humains, mais vu sous l'angle de l'amour et de la guerre. À savoir, voilà, c'est l'amour absolu, mais même dans cet amour absolu, il y a des frontières et il faut respecter la frontière, sinon c'est la guerre. Alors, comment faire pour passer? Qu'est-ce qui est plus fort? Et que l'amour et que la guerre, c'est la lecture. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit admirablement Proust, la lecture est l'unique moyen de rencontrer l'autre en conservant l'état de profondeur que l'on a uniquement dans la solitude. Quelle est l'unique manière de concilier présence de l'autre et solitude? C'est la lecture. La lecture, c'est une invention absolument miraculeuse. Ça transcende la frontière. Quand on lit un texte au sens fort du terme, que ce soit Homère qui est mort depuis, qui n'a d'ailleurs peut-être jamais existé, ou Amélie Nothomb qui est devant vous, ce qui se passe quand on lit fort un texte, c'est plus fort que tout. On est à quel point on est en présence de la personne, mais à quel point ça dépasse la frontière de la personne, dans les deux sens, c'est plus fort que tout. Et pour autant, il n'y a pas de... La lecture est une invention absolument miraculeuse.
Alors justement, à ce propos, dans ce livre, vous évoquez ce principe d'amour absolu, finalement, qui consiste à plonger dans un livre et à le finir d'une traite, parce qu'on y est et qu'on ne peut plus en sortir. Alors, du coup, je me suis posé une question. Vos livres, là, ces dernières années surtout, sont des petits livres, entre guillemets, dans le format, j'entends, bien sûr, qu'on lit d'une traite. Je me suis demandé si, justement, dans cette envie de transmettre, vous aviez aussi cette envie de susciter la lecture d'une traite.
Mais vous êtes de plus en plus géniale. Vous me faites prendre conscience de choses que je ne sais pas et qui sont évidemment vraies. Mais bien sûr, Mais bien sûr, je me rends. Ça doit être pour ça que mes livres sont courts. C'est parce que je propose un moment d'amour absolu. Et nous le savons bien, bien sûr, que quand on vit un moment d'amour absolu, on n'a pas envie que ce soit interrompu. Et pour ça, donc, comme si ces moments d'amour absolu est de l'ordre de la lecture, ben, faisons en sorte que l'interruption ne soit pas nécessaire. C'est vrai qu'en 3 heures, on y arrive, et 3 heures, 5 heures sans interruption, ben, nous en sommes tous capables.
Tout à fait. Et alors, après, il y a des petites perles hein, dans votre livre, comme vous savez les faire. Il y a beaucoup d'humour, Amélie Nothomb, bien sûr. Par exemple, on y apprend que les Belges sont des brutes.
Mais c'est vrai, je sais de quoi je parle. Je suis belge, je suis une brute. La Belgique est un pays extrêmement paradoxal. Jules César a parlé admirablement de la Belgique. Jules César, bon, la phrase la plus connue, c'est « Omnium Gallorum fortissimi sunt Belgae », de tous les Gaulois, les Belges sont les plus courageux. Mais il a dit, le texte, on ne cite jamais la suite du texte, qui me plaît terriblement, c'est « les autres Gaulois, vous, je suis désolée, hein, les autres Gaulois se sont amollis à force de commercer avec les Romains, tandis que les Belges, à force de qui n'ont jamais cessé de guerroyer avec les Germains, ne sont pas devenus des marchands et sont restés de rudes barbares. J'adore ça. Je pense que c'est vrai. Je pense que d'abord c'est vrai. On est nul en commerce. On est resté on est des quiches en commerce, mais de façon absolue. Nous avons en Belgique des produits extraordinaires que nous sommes incapables de vendre parce que nous sommes les plus mauvais commerçants de tous les temps. Et c'est vrai que nous sommes restés des barbares, ça, nous en avons plus d'un signe. Et c'est d'autant plus étrange qu'à côté de ça, on est assez créatif. Et on est... Ça, c'est peut-être notre bizarrerie la plus spéciale. Nous sommes les meilleurs grammairiens de tous les temps. Les meilleures grammaires françaises, j'ai bien dit, les meilleures grammaires du français ont été écrites par les Belges. Bien sûr, la très célèbre grammaire Grevys, qui est le bon usage, qui est d'une simplicité d'utilisation, d'une clarté extraordinaire. Quel drôle de peuple on est.
Alors, à lire votre livre, alors il y a cette petite phrase qui est très joyeuse, parce qu'il y a, comme toujours, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision à travers vos personnages. Et puis, à la lecture de l'ensemble de ce livre, on se demande si, quand vous dites les Belges sont des brutes, c'est dans un sens d'une grande sincérité. C'est-à-dire, pas forcément dans le sens de la barbarie, comme vous le dites là à l'instant, mais dans un sens d'une grande clarté. Les choses sont posées et elles sont comme elles sont. Et donc, elles sont sincères. Amélie Nothomb, vous avez cette sensation-là ?
Ce que vous dites, mais alors plus, vous êtes Socrate, vous m'accouchez mon esprit. Je pense que je suis en train de prendre conscience de ma belgitude grâce à vous. C'est vrai que les Belges sont simples. C'est-à-dire que on est sans malice, hein, c'est comme ça, on dit les choses comme elles sont. Et c'est pour ça que nous sommes capables de prouesses absurdes, mais dont aucun autre peuple n'est capable. Enfin, là, nous avons encore battu tous les records d'absence de gouvernement. Ça fait rire tout le monde, mais c'est admirable. Imaginez, ne serait-ce que vous, Français, imaginez que la France reste 500 jours sans gouvernement. Mais c'est l'anarchie. Mais vous vous étripez tous les uns les autres. Nous sommes restés, là, nous avons battu notre propre record, nous sommes restés 500 jours sans gouvernement. Bon, je ne vais pas dire que ça a été génial, mais enfin, on ne s'est pas étripé. Et finalement, on a accouché d'un gouvernement, et d'un gouvernement un gouvernement qui est plutôt admirable. C'était pas gagné. Je rappelle le principal problème de la Belgique, les Flamands, les Wallons, et en plus, maintenant, la Flandre devient une propriété d'extrême droite. L'extrême droite flamande est terriblement inquiétante, incarnée par Bart de Wever, qui a des visées sur la Belgique, et la Belgique pourrait devenir un état d'extrême droite à cause de ce Bart de Wever. Nous avons un inconvénient supplémentaire qui, en même temps, est une subtilité, c'est que chez nous, le scrutin est proportionnel, contrairement à la France, où le scrutin est majoritaire. Le scrutin majoritaire est une simplification extraordinaire, c'est-à-dire c'est le meilleur, le plus fort l'emporte. Chez nous, c'est proportionnel, donc vous imaginez le danger. Donc, nous avons attendu 500 jours pour trouver un gouvernement qui puisse contourner cette extrême droite, et nous l'avons trouvé de façon imparable. On a trouver un premier ministre flamand, mais qui ne soit pas d'extrême droite. C'était une subtilité, il fallait y penser. Et c'est ainsi qu'on a, on a maintenant un gouvernement dont l'extrême droite est totalement absente. Et qui, et en même temps, les Flamands peuvent rien dire parce qu'ils sont surreprésentés au gouvernement. Mais il fallait naviguer en eau trouble. C'est bon. Alors peut-être que notre gouvernement va exploser après-demain. Ça, mais en même temps, nous savons que nous sommes capables de tenir 500 jours sans gouvernement.
Alors Amélie Nothomb, c'est ma dernière question parce que vous êtes très attendue quand même pour les dédicaces. Justement, vous n'aimez pas spécialement les symboles, les symboliques, les phrases pour dire une chose d'une autre façon. Vous avez ce côté très sincère. Et pourtant, dans ce livre, plus que jamais, on a vraiment l'impression qu'il y a plusieurs lectures. Vous l'avez écrit comme ça ?
Sûrement. Sûrement, parce que d'abord, tout ce que vous dites est vrai, et je l'observe de façon avec beaucoup de trouble. C'est vrai qu'on peut lire ce livre complètement au premier degré. C'est une jeune fille de 19 ans qui rencontre un adolescent et qui lui apprend à lire, en gros. Et évidemment, l'adolescent est fasciné. Il tombe amoureux parce que, voilà, il est très seul, finalement, ce pauvre garçon. Et cette jeune fille est assez fascinante à sa manière. Donc, il se passe quelque chose de très fort. Et finalement, ils vont se délivrer l'un l'autre parce que, bien sûr, l'adolescent est un adolescent à problème, mais finalement, la jeune fille, elle ne va pas très bien non plus. Donc, c'est un échange de bons procédés. Ils s'apprennent l'un à l'autre quelque chose d'essentiel. Mais bien sûr, je pense que ce livre peut être lu à énormément de degrés de lecture différents. C'est à la fois un discours socratique sur tout ce que deux êtres peuvent s'enseigner. Et sûrement aussi un récit politique, sans doute très symbolique, sur tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
Parce qu'il y a un côté conte, pardon, ça m'évoque quand même une autre question que j'avais en tête, parce que c'est court, une demi-heure. Il y a un côté de l'ordre du conte, un peu initiatique, dans ce côté, eh bien, lisez cela et je reviens demain. Lisez cela et je reviens demain.
C'est Scheherazade.
Exactement.
Bien sûr, c'est Scheherazade, c'est... voilà, c'est... La lecture liée à la survie. La lecture vue comme un acte de curiosité souveraine. Et voilà, si vous lisez cela, je reviendrai demain. Donc c'est une histoire de désir qui se continue comme ça. Et on peut dire que c'est une histoire de désir qui marche très bien. Parce que finalement, l'adolescent marche complètement. Mais la lecture et le désir, ça va très très bien ensemble. Pour moi, le plus beau livre de tous les temps, le livre qui est mon livre de chevet, bon, c'est très difficile de choisir le plus beau livre de tous les temps parce qu'il y en a tellement. C'est La Princesse de Clèves, qui pour moi est souverainement un livre sur le désir. Qu'est-ce que c'est que La Princesse de Clèves ? C'est l'histoire d'une femme qui se refuse jusqu'au bout. Et en même temps, tout en se refusant, il faut voir tout ce qu'elle donne. Bon. Je pense qu'on n'a jamais rien écrit d'aussi fort sur le désir que La Princesse de Clèves.
Amélie Nothomb, en tout cas, on sera très content d'avoir le désir de vous attendre l'année prochaine pour le prochain. Merci beaucoup, Amélie Nothomb.
Merci infiniment.
C'est génial.
Génial. Formidable.